Absence, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine.
Moi, je me suis pété les oreilles sur cette impro d'ailleurs.
Une émission où on parle tranquillement d'une musique intranquille.
Radio Campus Paris, la radio de l'amour et du communisme, apparemment.
C'est très drôle.
La vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, je ne veux pas. Écoutez-en, mais sachez que.
On est comme des gamins dans, dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamangs dans une cage qui chantent une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9 et disponible en podcast.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Absence, point d'exclamation. Ça fait plaisir de retrouver ma chaise de présentateur, enfin je crois pas, mais ça me fait encore plus plaisir de partager le plateau avec de si belles personnes, notamment Lorraine qui maintenant est coproductrice de l'émission.
Wow.
Et là tu me rejoins à la co-interview.
Exact.
Welcome to the show. Bienvenue à Capucine. Toi, maintenant, tu commences à être une habituée, plutôt de la chronique, mais co-intervieweuse aussi aujourd'hui. C'est bien, ça me laisse du travail. Bienvenue à toi. Merci, Ange, pour la technique. Petit Ange parti. Pas trop tôt. L'équipe est un peu fatiguée parce qu'on sort de notre festival du même nom, Absence, mais on est là, on est toujours dans la bonne humeur, il y a des micros un peu partout là dans le studio, c'est une sorte d'installation d'art contemporain, si on peut appeler ça comme ça. Ce soir, à la base on devait pas faire de direct, alors pourquoi ? Parce qu'on s'était dit, ah ben on va être fatigué justement, et ce direct, il a été un peu imaginé il y a une semaine avec un contrebassiste mystère de ce soir. Et je me suis dit, ah mais les planètes s'alignent, on peut avoir un live dans le studio. Alors la technique, techniquement on ne pourrait pas avoir un live dans le studio, mais techniquement on peut avoir un live dans le studio. Et donc je me suis dit, bah il faut que ça se fasse. Et donc, cette émission, elle va être dédiée à un duo d'instrumentistes, d'improvisateuristes, de chanteurs-chanteuses, de violonistes et je crois que j'ai fait le tour de la question, et de contrebassistes. J'ai dit contrebassiste ou pas ? Ah non, j'ai dit et de violonistes au pluriel, parce que si on considère que la contrebasse est un gros violon.
Ça me va.
Ça te va ? Tu es violoniste maintenant.
On va dire ça.
Et du coup, on a avec nous le duo Limen, donc composé de Eugénie Lefort et Jules Breuer de Milleray. Bienvenue à vous deux, ça fait trop plaisir.
Merci beaucoup de nous inviter, c'est un plaisir de pouvoir participer à cette émission.
Bonjour. Donc on va rapidement rentrer en scène. Je vais vous demander tranquillement. Là, du coup, c'est un duo d'improvisation. Alors, improvisation générative, ça, on pourra revenir sur le terme un peu plus tard.
Oui.
On va vous demander assez vite de jouer. Et alors, quelques mots peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Comment écouter cette musique ? Comment l'appréhender ? Enfin, dans quel état se mettent les gens pour vous écouter là pendant 8-10 minutes ? Pour introduire votre duo.
Ben, je dirais que ce qui je pense peut ressortir, c'est justement de se laisser planer par ce qu'il y a comme événement justement en direct et du coup de partager un instant qui soit donné, partagé, et que justement ce qui est chouette dans l'improvisation, c'est que justement la décision se prend sur l'instant qui est dit. Bien sûr, on a un imaginaire qui s'est construit tout au long de sa vie, et on partage justement en relation avec les gens qui nous ont entourés et qui nous ont traversés de quelque manière, et du coup de justement vivre comme étant un improvisateur, une improvisatrice, le public qui est en train d'écouter l'œuvre et qui aussi la façonne parce qu'il est traversé.
Trop bien. Et toi, j'ai une petite recommandation.
Bah, la même chose, juste en espérant qu'à travers les ondes, le contact avec le public se fasse tout aussi bien.
Ils sont habitués. Eh bien, très bien. Bah, je vous laisse rejoindre vos places respectives. Pour le rappel, on va écouter le duo Limen, donc composé de Eugénie Lefort et Jules Brouwer 2000 Ray. Vous êtes sur le 93.9 Radio Campus Paris. Merci à Radio Campus justement d'accueillir tout ça. Et écoutons ça en direct. Ange, pour toi, on est bon ? Eh bien, super. Je vous laisse la place.
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On était avec le duo Limen. Je vous laisse reprendre votre souffle tranquillement et vous réinstaller un petit peu. Comme ça, on présente un petit peu les choses un peu plus profondément. Et donc, on écoutait donc Eugénie Lefort et Jules Breuer de Milleray. Donc, Eugénie Lefort au violon et Jules au violon contrebasse.
Et au chant,
bien entendu, les deux. Vous avez des questions, peut-être ?
Bah ouais. Vous parliez de connexion avec le public, même à travers les ondes. Et on sent qu'il y a aussi vraiment une connexion entre vous. Comment ça... Est-ce que c'était naturel ? Est-ce que ça s'est construit ? Et quelle place ça prend pendant l'impro ? Enfin, quel est le rapport écoute slash... En même temps, être dans son truc et agir, quoi, et pas juste recevoir. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Ben, je dirais que le contact, il s'est fait peut-être de manière assez naturelle, dans le sens où, au niveau du parcours, on a fait tous les deux la classe d'improvisation générative, on a fait des projets de manière éparse ensemble, mais on a surtout été en cours, dans des situations de jeu. Et ce qui s'est fait, c'est que, en dehors de la classe, il y avait vraiment cette envie de perdurer dans ce rapport d'improvisation et que par une complicité aussi humaine mais aussi musicale, on s'est mis à faire du duo sans forcément le nommer de manière un peu éparse. Et puis, par cette complicité-là, on a voulu continuer et de monter un vrai duo avec un projet et un peu plus une ligne d'envie, quoi.
Bah, complicité humaine qui en plus est née par la musique avant toute chose et par l'extrême sincérité que notre pratique imposait et du coup qui permettait un contact à l'autre véritablement profond et intense, d'ailleurs même parfois de manière entre guillemets dérangeante quand on n'est pas préparé à recevoir l'intensité de l'autre. Je suis encore un petit peu essoufflé de... mais ça peut parfois perturber. Enfin, c'est forcément, pour réussir à connecter, il faut accepter de lâcher pas mal de barrières et voilà.
Attention, si tu peux couper les micros live s'il te plaît, c'est bon, c'est très bizarre. Oui, désolé, les problèmes techniques. Et alors moi, justement, il y avait un peu cette question, un peu, parce que vous avez tous les deux, on disait, fait cette classe d'improvisation générative au CNSM. Alors j'imagine que vous avez un grand parcours classique aussi pour rentrer au CNSM. Et alors, à quel moment il y a eu ce point de bascule, justement, parce que quand on imagine instrumentiste classique, instrument classique, on s'imagine que vous jouez du Mozart ou du Bach, etc. Et à quel moment on en vient à trouver cette, alors je le dis dans le bon sens du terme, cette sauvagerie un petit peu de l'improvisation et de votre jeu, parce que là on l'a pas, pour les auditeurs et les auditrices, on ne le voit pas, mais il y a quelque chose de très corporel aussi, là où on a cette habitude. Alors, c'est pas forcément vrai dans les faits, mais de ces instrumentistes un peu figés. Et comment ça se passe ? Comment on en arrive là ? Est-ce que vous avez été traumatisés ?
Ok. Bah, dans mon cas, à titre personnel, du coup, il n'y a pas eu de rupture. Étant donné que je viens à l'origine des traditions orales et du métal et du rock progressif. Et je commençais que assez tardivement la contrebasse, dans le but de faire de la musique contemporaine. Du coup, il y a une jonction qui s'est faite directement entre le métal et la musique contemporaine. Et après, j'ai fait du classique et du romantique, parce que c'est pour le travail, il faut apprendre à jouer de l'instrument correctement, et c'est un bon outil pour le faire. Mais du coup, de mon côté, il n'y a pas eu, de rupture, si ce n'est un immense soulagement de trouver la classe d'improvisation générative au SUP, bien sûr.
Et la graine était déjà là, donc.
La graine était là, mais le cadre était propice pour qu'elle fleurisse.
Mais pour moi, je dirais que c'est un peu deux univers qui ont évolué un peu ensemble, dans le sens où, quand j'ai commencé l'instrument, j'avais vraiment un rapport de... après la session de travail un peu sérieuse, de faire un petit peu n'importe quoi avec l'instrument et de vraiment apprécier ça, parce qu'effectivement il y avait un rapport instrumental un peu normatif qui pouvait avoir lieu du fait d'apprendre l'instrument, comment est-ce qu'on doit bien le tenir, qu'est-ce que c'est un beau son, etc. Et du coup, justement, je pense, juste en tant qu'enfant, de vouloir sortir de ces normes-là, de juste vouloir s'amuser et en fait de trouver des sons qu'on apprécie trop. Et j'avoue que j'ai eu aussi de la chance, parce que mon frère a fait très rapidement de la musique contemporaine, et du coup j'ai quand même évolué avec cet environnement sonore là aussi, qui m'a aussi pas mal traversée. Et du coup, dans mon parcours, assez rapidement, j'ai fait des stages de jazz, du coup en rapport quand même aux musiques improvisées, même si du coup il y avait quand même le cadre de le jazz, c'est aussi toute une culture, etc., assimilée. Et du coup, au CNSM, effectivement, l'entrée au CNSM, donc tout ce concours, tralala. Mais en fait, dès que je suis rentrée, j'ai toqué direct à la porte de l'improvisation générative, parce que je trouvais que c'était trop, trop bien qu'il y ait ça. Je regardais dans les DCO, on appelle ça, c'est les disciplines complémentaires, et du coup direct j'ai fait, et puis c'était naturel pour moi, je me posais pas tellement de questions dans le sens de limite, je dirais.
Est-ce que vous pourriez expliquer très rapidement l'impro générative, parce que je pense que tout le monde n'est pas très familier avec le terme?
Alors, je vais le tenter. C'est pas forcément si simple à essayer de définir. Et je pense qu'il y a autant d'improvisation générative que d'improvisateurs qui la pratiquent. Je vais tenter la partie académique théorique, qui commencerait par dire que l'adage de la classe, c'est « l'entendre génère le faire », et que c'est une des conceptions sonores qui sont issues de Schaeffer.
Reprise par Alain Savouet.
Absolument.
Fondateur de la classe.
Oui, non, mais de toute façon, n'hésite pas à rajouter toute petite dose d'information dans mon propos, c'est très bienvenu.
Les
Et en tout cas, moi, ce que j'aurais tendance à y voir dans l'improvisation générative, ce serait donc un rapport à l'écoute très particulier qui est cultivé dans cette pratique. Et j'ai l'impression qu'en classe d'improvisation générative, on apprend beaucoup plus à écouter que à jouer. Ensuite, le jeu, c'est quelque chose qui découle de la nature de l'écoute. Mais dans la nature de l'écoute, on essaye le plus possible de décrocher tout objet sonore de ses ramifications culturelles, organologiques, et je me suis perdu dans mon explication. Mais du coup, voilà, on essaie de décrocher ce rapport au son dans le fait qu'on les connaît. Si on entend une note de tel instrument, on peut l'identifier comme étant telle note de tel instrument. L'objectif, c'est plus d'essayer d'entendre le son comme s'il était neuf à chaque écoute. Et c'est la raison pour laquelle on utilise énormément de vocabulaire contemporain, mais plutôt dans le but de travestir l'instrument et de faciliter ce rapport à l'écoute qui va être mis à mal et qui va être obligé, n'ayant pas assez de références, de considérer le son pour ce qu'il est. Et ensuite, on peut réintégrer des éléments culturels en ayant cette pratique toujours en cours pour essayer d'avoir les éléments culturels dans la plus grande conscience possible.
Très bien. Merci. Et alors moi, j'avais un peu cette question par rapport à la voix, justement cette déconstruction du sonore, cette déconstruction de qu'est-ce qui est beau ou pas beau, comment je l'apprécie, pourquoi je l'apprécie, etc. J'imagine que, parce que vous avez une formation de chanteur classique aussi, des chanteuses.
Pour ma part, pas du tout. Je pense que j'ai juste fait un peu de chorale dans ma formation. Mais...
Moi, j'ai une légère formation de chant lyrique.
Et du coup, le fait d'incorporer vos voix justement au même niveau, parce que même si ça ne joue pas forcément autant, c'est pas une question de qui a le plus gros violon. Et du coup, ce rapport à la voix, justement, le fait de le mettre au même niveau que votre pratique instrumentale, qui est beaucoup plus conséquente, c'est ça que vous essayez d'imaginer quand justement décorréler cette construction sonore et cette construction des acquis ?
Je dirais que la voix est un peu une continuité de l'instrument dans le sens où justement pour chercher des voies de développer l'instrument et de la sincérité qui en découle, je dirais que la voix du coup ça a été d'une certaine manière un chemin assez continu pour chacun de nous. Et pour le coup, on s'est aussi à pas mal retrouvé avec cette pratique de la voix vis-à-vis de notre instrument et le fait qu'elle soit à la fois un ajout, quelque chose qui existe en tant que tel, ou en même temps un instrument hybride, du fait qu'on n'arrive pas forcément à percevoir.
C'est un petit peu comme si la voix sortait de l'instrument aussi, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais.
Eh bien, très bien, eh bien... Je vais gentiment vous dire, retourner au goulag, gentiment vous dire, si vous êtes d'accord, de retourner vers vos instruments. Et alors là, vous prenez votre temps, si vous avez le temps en tout cas. Nous, on est là pour vous écouter, et tous les auditeurs et les auditrices de Radio Campus aussi. Si vous êtes en taxi, vous allez apprécier le moment. Et oui, prenez place. Donc, pour le rappel, on écoute, on est en compagnie du duo Limen, donc formé par Eugénie Lefort et Jules Breuer de Milleray. Jules Breuer de Milleray à la contrebasse et au chant. Et Eugénie Lefort au violon et au chant. Voilà le duo Limen sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9. Thank you.
Thank you. écoutait donc le duo Limen. Et avant de gentiment vous inviter à revenir en dehors du goulag, merci beaucoup. On écoutait donc le duo Limen avec Jules Bauer de Milleret, c'est ça, à la contrebasse. Et à la contrebasse cette fois-ci, et Eugénie Lefort au violon. Merci beaucoup. Toujours en direct sur le 93.9, les aléas du direct, les aléas techniques, les aléas. Tout est vivant ici, c'est bien. Venez, prenez place tranquillement. C'est du sport ce soir, c'est du sport. Donc, on avait peut-être plusieurs questions pour vous. Moi je me demandais après justement cette improvisation, déjà tous ces modes de jeu que vous utilisez, ces modes de jeu contemporains, c'est l'utilisation de l'instrument d'une autre manière que la manière classique, on va dire. Est-ce que du coup le fait de jouer ces modes de jeu plus fréquemment dans l'improvisation générative, etc., influe sur votre travail de musicien classique? Parce que j'imagine que vous continuez quand même la musique classique à côté. Et donc, comment... tout à l'heure, on a un peu évoqué la question de comment on est passé du classique à l'improvisation générative. Et maintenant, comment vous arrivez à passer de l'improvisation générative à la musique classique?
Je dirais que c'est donc dans le rapport à l'écoute du son et l'écoute du son dans toutes ses potentialités. Je dirais que ce qui est assez marquant, c'est au final, même quand on peut être dans un rapport d'écoute, d'écouter des interprètes, de justement avoir ce rapport de ah, à tel moment l'interprète a genre limite eu un petit tremblement ou quelque chose, et ça a donné toute la sensibilité sur ce moment qui est en train de se passer. Ce qui donne du coup une plus grande peut-être palette, je sais pas, je voudrais pas être comparative, mais j'ai l'impression en tout cas que pour moi ça m'a apporté justement d'autant plus une grande palette de jeux et un rapport au son beaucoup plus large, notamment même pour des interprétations de musique romantique où du coup je vais vraiment me questionner sur le timbre que je veux avoir à tel moment et vraiment l'approfondir le plus pour avoir vraiment le son qui me convient le plus et beaucoup moins dans ce que la note est censée représenter et le rapport au son comme il devrait avoir lieu.
Et finalement, est-ce que ça a permis, cette pratique de l'improvisation, ça a permis de débloquer certaines choses dans votre instrument, dans votre son? Et par exemple, est-ce que vous recommanderiez à un jeune instrumentiste qui... alors, par hasard, s'il passe par là, vraiment, de lui dire, écoute, essaye de faire autre chose avec ton instrument, essaye d'aller dans la recherche sonore pour débloquer certaines choses. Est-ce que ça a débloqué... pour vous
Je pense qu'il y a tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a un double rapport dans le sens où pour la musique classique je pense qu'il y a vraiment une précaution du geste, chaque geste doit être à sa place, etc. Là où l'impro justement libère le geste, puisque le geste est fédérateur de la musique qui est en train d'avoir lieu. Et du coup d'avoir ce double rapport à la fois du coup d'être précautionné du geste et ce qu'il donne à dire, et à la fois de comment est-ce que on peut justement libérer le geste et du coup d'ensuite peaufiner sur quel est le geste au fond qui va produire ce geste-là qui est complètement libéré, il produit ce son-là aussi. Et du coup, d'en prendre conscience. Voilà.
Et pour compléter, ce qui, je trouve, est intéressant de penser, c'est qu'il n'existe pas de personnes qui font de la scène qui ne sont pas improvisateurs. Parce que interpréter sur scène en se faisant à l'acoustique, aux réactions du public, à l'hygrométrie, à tout plein de paramètres, c'est déjà une certaine forme d'improvisation. Et du coup, j'ai l'impression que avoir une pratique entre guillemets réelle de l'improvisation, genre en faisant de la musique improvisée, ça peut peut-être permettre à un interprète de classique d'augmenter sa réactivité à tous ces paramètres avec lesquels il est déjà obligé de composer à chaque concert.
Et alors moi, peut-être une question plus sur la construction. Alors moi, j'ai un gros dilemme. Je vous l'explique en direct, en réel. J'ai déjà été confronté à des improvisations qui étaient, on va dire, guidées, qui était déjà placé d'avant. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles dans l'improvisation, que ce soit générative ou pas générative. Il y a un peu l'école du on compose tout de A à Z sur scène et on arrive un peu à poil sur scène, et c'est là que il y a la seconde école qui est de, on prépare, on se dit à tel moment on joue ça, après on joue ça, après on joue ça. Et alors moi je voulais avoir votre avis avant de donner le mien. Avoir un peu votre avis. Alors du coup, est-ce que par exemple ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez un plan un petit peu, ou alors c'est au fur et à mesure des répétitions, est-ce que le plan se met en place au fur et à mesure des répétitions, ou alors est-ce qu'il n'y a pas de plan du tout et c'est vraiment un jeu qui se crée sur le moment présent?
Dans notre cas du coup, il n'y a vraiment pas de plan du tout. Et on arrive là en se demandant un peu aussi qu'est-ce qui va se passer. Mais après, on a une assez grande expérience de jeu ensemble pour pouvoir se permettre d'avoir la confiance que si ça s'est passé bien tant de fois, reprendre ce risque, que peut-être ça marche très mal, on peut le faire. Voilà pour nous.
C'est comme quand tu fraudes le métro, quoi.
Exactement. J'espère que le contrôleur n'est pas encore là pour tout de suite.
Et un peu dans cette même idée, j'aimerais bien savoir ce que c'est votre rapport à la mémoire. Est-ce que c'est vraiment... ça va irriguer vos impros les unes après les autres, ou est-ce que vraiment il y a plus l'idée de faire un truc, le laisser partir? Et parce que dans impro générative aussi, est-ce que ça génère quelque chose dont on se resserre plus tard? Est-ce que... comment vous voyez tout ça?
J'ai l'impression que aussi ce qui est chouette, c'est de se laisser surprendre aussi, dans le sens où quand bien même on a un souvenir d'un geste, et ben quand bien même le geste on essaie de le reproduire, ben il sera peut-être le son qui en résultera sera complètement différent, et du coup de se laisser surprendre par le son qui est en cours, et des fois du fait que pour cette impro là il va y avoir un son qui est débloqué parce que tel paramètre plus tel paramètre. Du coup, je dirais que c'est un peu des banques un peu différentes, entre guillemets, de sons qu'on a. Donc, une plutôt différente banque, dans le sens, une banque de sons, une banque de gestes. Et du coup, un geste qui est effectué avec une multitude de sons résultants, ou même une banque de sons avec genre des sons qui peuvent être produits, mais de manière à la fois différente. Et aussi de savoir, entre guillemets, comment on envisage l'instrument, comment est-ce qu'on prend l'instrument, j'aime bien aussi un peu entre guillemets triturer l'instrument où il est plus du tout pratiquement sur mon épaule, je vais pouvoir du coup avoir tel geste qui est peut-être un peu inaccessible, voilà, et pouvoir doser avec ça.
Et donc tout à l'heure vous parliez respectivement du jazz et du métal, et je voulais savoir si ça vous a beaucoup influencé ou pas du tout dans votre vision non seulement de l'instrument mais aussi de l'improvisation. Est-ce que vous piochez des trucs, par exemple, je sais pas, dans la façon de jouer dans le jazz, par exemple dans le métal, des techniques de jeu, des idées musicales, est-ce que ça influe?
Moi je pense en termes d'esthétique et d'idées musicales, il y a vraiment pas mal de trucs qui viennent de là. Juste parce que au moment où je me construisais en tant que musiciable, entre guillemets, enfin pas tellement en tant que musicien, mais en tant que découvreur de ce que c'est la musique et de construction de mes goûts en même temps que de construction de ma personne, je baignais dans cette chose-là. Donc oui, je pense que mon imaginaire musical est toujours relié à ça, quoi que je fasse.
Et pour moi, je dirais que c'est plus aussi toute la culture jazz et la manière dont aussi c'est corrélé d'un rapport historique important, et du fait que aussi le fait d'improviser, c'est aussi une lutte de liberté, etc. Et ce rapport-là, je pense, au ce rapport culturel.
Très bien, super. Eh bien, on va y retourner alors, on va y retourner à cette lutte. Et Lorraine, je te laisse désannoncer pendant que moi je règle les micros.
Ouais, okay. Bien sûr.
Ça va?
Ouais, ouais. On va écouter... On va écouter encore une improvisation du duo Limen, composé d'Eugénie Lefort au violon et de Jules Bauer de Milleret. J'ai pas bien dit. Ok. Et donc le duo Limen en direct sur Radio Campus.
Thank you.
Toujours à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9, on écoutait le duo Limen, composé de Eugénie Lefort au violon et à la voix, et Jules Bauer de Minerai à la contrebasse et à la voix aussi. Merci beaucoup, je vous laisse reprendre votre souffle. Merci Ange à la technique, hein. tu sauves les meubles, comme on dit.
C'est de l'improvisation générative pour tout le monde.
Voilà, c'est ça. On avait quelques petites questions. D'ailleurs, il nous reste 4 minutes. Vas-y.
Oui, alors, déjà bravo. C'est super. Et je voulais savoir, est-ce que, à tout hasard, vous avez aussi composé des pièces ou que vous auriez peut-être enregistré les impros ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Est-ce que vous avez enregistré ?
Moi, j'ai... Alors, dans les choses qui sont directement dans cette lignée-là, il y a la musique d'un court-métrage d'une réalisatrice, Hélène Boursier, qui a été faite en improvisation générative. Et justement, on parlait tout à l'heure de à quel point c'est préparé ou pas. Là, pour le coup, c'était à la fois très préparé, parce que j'avais tout scripté pour le court-métrage, vraiment avoir des timings avec des ambiances et tout ça. Mais du coup, en utilisant l'interprète comme portée, quoi, disposée sur l'ambiance qui est censée être. Mais cette chose-là n'est pas entendable pour l'instant, parce que le court-métrage n'est pas encore sorti, mais il y avait notamment Eugénie aussi au violon sur le projet. Mais donc ça, c'est un exemple un peu inverse, où tout était vraiment scripté, mais la règle la plus importante à respecter, c'est que si artistiquement il y a quelque chose de plus pertinent à faire que de suivre ce qui était prévu, il est impératif de s'écouter, même si on détruit la forme, même si on casse tout, si on le sent et qu'on n'est plus en adéquation avec les règles prévues de base, il ne faut pas continuer à les suivre.
Oui. Et alors, pour ces quelques minutes qui nous restent, est-ce que du coup vous avez des projets d'albums, de dates, de prévues pour qu'on annonce ? Je sais pas, un événement ou une danse folklorique.
C'est vrai qu'on est mauvais en promo.
On va participer au Festival POT. On a concert le 8 novembre à 11h. C'est à Besançon. Donc le Festival POT, on est programmé.
Un café, okay. Café-concert.
Café-concert, donc on joue dans une librairie et du coup on a un créneau de demi-heure.
Voilà. Bah, faut qu'on essaie de prendre contact avec nos amis Besançon.
ça démarre mal le contact.
C'est vrai, c'est la province. Non, on vous aime. Moi-même, j'ai été formé à Radio Dijon Campus. Je me serais détesté. Des projets peut-être d'enregistrement
Sûrement une session dans l'année. Voir en termes d'album, je pense pas. Là, on n'est pas lié à des labels ou quoi que ce soit, mais voilà.
En tout cas, on vous enverra déjà l'enregistrement de ce soir qui est bien épicé. Merci beaucoup d'être passé au micro de Radio Campus Paris. Si vous avez envie de présenter, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment.
Merci de nous avoir accueillis, c'était vraiment un très grand plaisir.
Et je pense que ce n'est que partie remise, on refera ça et cette fois-ci on chopera les bons micros et on essaiera de faire ça plus clean. En tout cas, merci beaucoup. Oui, donc merci à Capucine, merci Lorraine, mes Totally Space, je suis Jerry. Merci Ange à la technique. Il faut que je vienne décrocher l'antenne. Du coup, si tu peux charger le son d'Eliane Radigue et le lancer tranquillement. Vous étiez à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 avec le duo Limen, donc composé de Eugénie Lefort au violon et à la voix et Jules Bauer du Milleret à la contrebasse. C'est ça? À la contrebasse et à la voix. Et restez curieux auditivement et intellectuellement parlant. Et à bientôt, à dans deux semaines sur Absence, dans Absence Radio Campus Paris.